Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du Lab U sur Radio U 101.1 FM. Nous recevons ce soir Sébastien Carnet, maître de conférences en histoire contemporaine à l'UBO et membre du Centre de recherche bretonne et celtique. Sébastien Carnet est spécialiste de l'étude du nationalisme breton et de la recomposition des identités en sortie de guerre en Bretagne. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Lisa.
Alors, vous avez commencé par étudier les parcours intellectuels et politiques des activistes de la cause nationale bretonne, celle que vous appelez, enfin qui est appelée la génération sans sourire. Puis ensuite, la création et le devenir d'un organe de presse de cette mouvance qui s'appelle le journal Braise à Tao, alors avec un point d'exclamation. J'imagine que quand on le prononce, il faut mettre un peu d'allant. Mais voilà. Et vous avez ensuite creusé le sujet du nationalisme breton, de son instrumentalisation de l'histoire et ses diverses expressions, jusqu'à travailler plus récemment sur l'histoire politique du drapeau breton et de la musique bretonne. Alors ma première question pour commencer, c'est pourquoi vous avez choisi le nationalisme breton comme objet d'étude ?
Alors c'est une longue histoire parce que avant de me lancer dans des recherches universitaires, j'ai travaillé dans le secondaire pendant une vingtaine d'années.
D'accord.
Et donc j'avais fait mes études à Brest, que j'avais terminé dans les années 90, par un mémoire de maîtrise à l'époque, c'était pas master, c'était maîtrise, qui n'avait rien à voir du tout avec... Avec le mouvement breton, j'avais travaillé sur l'habitat rural du XVIIIe siècle, dans les monts d'Arrée.
D'accord.
Et j'ai obtenu le CAPES et puis j'ai commencé à bosser dans le secondaire jusqu'à ce que, par la force des choses, en travaillant sur la Première Guerre mondiale, par un concours de circonstances, en fait, j'apprends que le mouvement breton s'intéressait aux monuments aux morts. Enfin, il y avait des polémiques autour de la Grande Guerre et je me suis dit, tiens, qu'il y avait quelque chose à creuser là. Donc, j'ai fait un DEA à cette époque-là, au début des années 2000, sur justement la façon dont la Grande Guerre était perçue dans le journal Braise à Tao. Donc ça a été, voilà.
Ah oui, le point de départ, c'est ce fameux journal.
Voilà, ouais. Donc une reprise d'études un peu tardive, puis j'ai laissé ça de côté, enfin j'ai bouclé le 2A, et à la faveur de l'arrivée d'un fonds d'archives de militants à Brest, donc en 2008. Là, j'ai repris un travail de plus grande envergure qui m'a mené à une thèse d'histoire sur le parcours de militants nationalistes bretons.
Donc finalement, le point de départ, c'est un monument, une pièce architecturale, on va dire, du monde rural, quoi.
C'était un article de Braise à Tao qui expliquait qu'il était intolérable de voir des monuments aux morts en Bretagne représentant des femmes en train de pleurer, parce que la Bretonne ne pleure pas. Voilà,
ça vous a tellement intrigué.
Et je me suis dit, mais c'est quand même étrange ce truc-là. Donc, voilà.
D'accord. Ouais. Ok. Et donc vous avez au niveau de vous avez trouvé votre directeur de thèse.
Alors c'est en fait j'ai eu deux directeurs, c'est assez particulier. Yvon Tranvoise qui était un de mes anciens profs d'histoire contemporaine à Brest. Puis voilà, on se côtoyait déjà depuis plusieurs années. Et Daniel Lecodic qui lui est en géoarchie.
Institut de géoarchitecture.
Hein, voilà. Et très très fin connaisseur du mouvement breton et lui aussi, donc voilà, c'était assez logique de les mettre tous les deux à contribution.
Mmh. D'accord. Et donc votre source, c'est quoi la source de votre travail ? C'est des archives qui sont au Centre de recherche bretonnique celtique ou c'est plus large que ça ?
Alors au départ, c'était ça, c'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure un fonds d'archives qui est arrivé en 2008 au CRBC. C'est les archives d'un militant qui était exilé en Irlande. Célestin Lenné, c'est son nom, qui a été le fondateur d'une petite troupe paramilitaire qui s'appelle le Bézène Pérotte.
Oui, j'ai croisé dans vos lectures.
Pour échapper à la peine de mort à la fin de la guerre, il a trouvé exil. Il a cherché exil en Allemagne d'abord, puis en Irlande. Il est décédé en Irlande en 83 et ses archives étaient restées chez son secrétaire pendant des décennies jusqu'à ce que cette personne décide de les déposer au CRBC. Alors, c'est un choix qui s'est fait peu de temps après la tenue à Brest d'un colloque en 2001 sur justement les questions identitaires, la Seconde Guerre mondiale et les régions.
Mmh. Mais alors, c'est étonnant parce que, somme toute, ils auraient pu vouloir les cacher, ces archives, et ils les ont rendues publiques, quand même.
Ils les ont rendues publiques. C'était justement une des conditions du dépôt, c'était de favoriser le travail des étudiants sur ces questions-là, quoi. Donc là, il y avait vraiment une volonté d'ouverture des archives, ce qui m'a incité, du coup, à essayer d'en trouver d'autres ailleurs. Mm-hmm. Et j'ai réussi, donc, en contactant des familles de militants, j'ai réussi à faire apparaître des fonds. Donc certains restent dans les familles, d'autres ont été déposés au CRBC. Donc là, ça arrive un moment, si vous voulez, où je pense que les enfants ou petits-enfants se disent que il faut donner de la visibilité à des choix politiques qui ont été faits, ou essayer de se persuader qu'en tout cas, c'était pas vain, d'essayer de comprendre des parcours. Et dans ce cas-là, on laisse accès.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu volonté de cacher certaines choses dans les familles. On aurait pu imaginer que, parce qu'il y a un pan de collaboration, on va le dire, tout de suite avec le nazisme, ils auraient pu vouloir le refouler, tout simplement.
Oui, alors, mais en même temps, c'est pas généralisable. C'est-à-dire, là, c'est quelques militants de premier plan qui ont bien voulu, enfin, leur famille ont bien voulu ouvrir les fonds, mais d'autres restent fermés pour l'instant.
Ah, d'accord.
Ou ont été ouverts et sont fermés maintenant.
Mm-hmm. Mm. Ouais, c'est plus complexe que ça.
Oui.
Ah, d'accord. Mais enfin, quand même, il y a une volonté de peut-être que c'est une façon aussi de montrer, enfin, eux, ils considéraient que leur parcours était excusable ou avait des raisons d'être. Et que c'était permettre aux générations de futures de les comprendre.
Il y a cette idée-là, et puis aussi, peut-être d'une certaine manière, une volonté de rentrer dans l'histoire.
D'une façon ou d'une autre.
Voilà, c'est ça.
En laissant une trace, quand même. Ouais. D'accord, ok. Et donc, du coup, vous en avez eu beaucoup ? Vous avez eu accès à beaucoup de fonds différents ou
Ah oui, alors, quatre gros fonds.
Oui.
Qui représentent alors des milliers de lettres, de dossiers, de papiers divers, des bibliothèques. Enfin, donc ça, c'était très, très important.
C'était un travail d'enquête, alors, là, enfin, de reconstitution,
oui, ça,
de parcours.
Oui, oui, oui.
Et c'est les fameux personnages qui étaient inscrits dans vos travaux, Mordrel, de la Porte, l'aîné et Fouéré.
Et Fouéré, c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et vous avez aussi complété avec une exploration des archives locales ou non, vous n'avez pas eu besoin ?
Si. Alors, d'autres fonds de militants plus réduits, mais aussi les archives départementales, donc
oui,
un peu partout
ça.
En Bretagne.
Oui.
Les archives nationales également à Paris. Et puis, des archives diplomatiques, des archives au Pays de Galles. On trouve des choses partout.
Mais comme vous avez travaillé sur Brest-Atao, du coup, vous avez aussi exploré, j'imagine, les archives de la presse, non ? Comment ça se passe, hein ?
Alors, ça, le travail sur Brest-Atao, il date de 2002. Et à cette époque-là, c'était essentiellement du dépouillement de presse.
Oui, ouais, c'est ça, aussi.
Ouais.
Oui, donc, ça fait partie de votre travail aussi, d'avoir exploré la presse.
Ouais. Okay. Donc, oui. Donc, j'ai lu toute la presse militante de l'entre-deux-guerres.
Ouais. Ok. Et donc, si on aborde maintenant directement l'exploration un peu du sujet, qui est assez complexe finalement, comment, pour comprendre l'histoire du nationalisme breton, que vos travaux m'ont permis de découvrir, commencer à percevoir, est-ce qu'on peut la présenter de façon synthétique ? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un découpage officiel en trois périodes, mais que ce découpage était un peu remis en question, ce qu'on appelle les MZAO, c'est ça ? Parce qu'en fait, ça serait aussi une instrumentalisation de l'histoire pour que les courants d'après-guerre se différencient en quelque sorte des courants antérieurs. Donc, est-ce que c'est toujours opérationnel, c'est découpage en trois périodes ou...
C'est-à-dire que oui, dans les années 60, donc, on a commencé à saucissonner un peu l'histoire du mouvement breton, donc, que les militants appellent eux-mêmes MZAO, c'est un terme breton qui signifie un peu une sorte de soulèvement, quoi, si vous voulez. Et le principe, c'était d'expliquer qu'il y avait eu un mouvement régionaliste donc, jusqu'en 1918, puis nationaliste de 18 à 45, et un nouveau mouvement qui était apparu après les guerres et qui n'avait rien à voir, finalement, enfin, c'est ce qu'on prétendait, avec ce qui avait précédé. Or, quand on regarde les choses de façon un peu plus fine, on se rend compte qu'il y a des passerelles d'une période à l'autre, qu'il y a du personnel qui est toujours actif d'une période à l'autre, et des idées circulent également. Donc, c'est un découpage qui peut être pratique quand on veut mettre des périodes entre parenthèses ou essayer de les circonvenir, mais
dans les faits, c'est une continuité quelque part, en réaction éventuellement, mais une continuité quand même.
D'accord.
Et donc, si vous deviez nous dire en quelques mots, Qu'est-ce que le nationalisme breton? Comment vous le caractériseriez?
Bah déjà, qu'il n'est peut-être pas breton, c'est-à-dire que c'est un nationalisme parmi d'autres, qui fonctionne selon les mêmes ressorts, c'est-à-dire la volonté de créer un kit national, une identité particulière, en se référant à des symboles, à des drapeaux, à des chansons, à des vêtements, à des monuments, un roman national. Donc, et ça, on le fait partout. C'est-à-dire,
c'est une époque, quoi, finalement. Les trois époques, même si elles ne sont pas opérationnelles, correspondent à un moment de l'histoire plus général. Finalement.
Oui, c'est ça. Il y a des singularités locales liées à la langue, liées à certaines choses, mais les éléments du kit sont toujours les mêmes. Après, ce que j'ai moi pu observer, c'est l'importance de la Grande Guerre finalement sur ces affaires-là, qui marque toute une génération de jeunes qui ont connu la guerre, mais qui étaient enfants ou adolescents à ce moment-là, et qui ont bien compris, ont été très très marqués par le politique. C'est une génération qui est marquée par la violence, qui est marquée par la violence de ce qu'elle lit aussi dans la presse pendant la guerre, et qui est vouée aussi à combattre. C'est-à-dire les jeunes de cette époque-là.
On les avait préparés à faire la guerre.
Voilà. Et lorsque la guerre s'arrête, ben certains n'ont pas compris que ce qu'ils allaient devenir en fait. C'était là tout un horizon qui s'est
écroulé. Ils pourraient pas être des héros.
Voilà. Contrairement à leurs pères qui eux bien souvent l'étaient. Donc ça a été quelque chose de très difficile à vivre. On a du mal à se figurer ça aujourd'hui.
D'où la génération sans sourire.
Voilà, marqué par le politique, mais aussi marqué par un déficit d'expérience qu'il fallait combler d'une manière ou d'une autre. Et la politique. Où le sport extrême, l'alpinisme, la vitesse, la voiture, la boxe sont des pis-allers, finalement, de certaines manières, des expériences qui permettent de se découvrir et d'essayer de pallier ce déficit héroïque, quoi, si vous voulez.
Oui, c'est aussi marqué par un contexte international, d'un retour au nationalisme, identitaire, oui.
Parallèle. Ce n'est pas spécifiquement breton.
Non. Ouais. D'accord.
Et donc, ça explique que certains jeunes se soient lancés en politique parce que pour des jeunes parisiens ou des jeunes rennais, s'intéresser à la langue bretonne, venir faire du vélo dans les monts d'Arrée ou dans les années 20, c'est l'aventure. C'est un ailleurs, vraiment. Et c'est de l'expérience qui peut être bouleversante.
Alors après, ils ont choisi quand même une incarnation de ce besoin d'action et d'héroïsme assez particulière quand même.
Oui, c'est pas finalement c'est là pour le coup, c'était la politique, c'était une façon de continuer la guerre par d'autres moyens. Enfin, on peut retourner la chose, mais qui du coup se singularise aussi par une espèce de capacité à s'intéresser à toutes les expériences politiques de l'époque. C'est-à-dire l'image qu'on a, c'est évidemment le nationalisme collabo, mais il y a des étapes avant d'arriver à ça. Dans les années 20, on est fédéraliste, on lorgne un petit peu vers la gauche, ça se radicalise petit à petit.
Finalement, ils sont cherchés, ils ont tâté plusieurs idéologies différentes.
On essaye tout.
Ils ont fini par adhérer à celle qui marchait le plus à l'époque aussi, peut-être.
Oui, celle qui les séduit davantage à un certain moment, après avoir essayé d'autres choses. Alors, ce n'est pas que de l'opportunisme, mais il y a cette capacité d'être un peu le buvard des expériences des politiques de l'époque. Et plusieurs groupes comme ça, en France, mais pas seulement en France, ça concerne toute l'Europe, groupes de jeunes se prétendent révolutionnaires et essayent de capter un peu des choses qui se passent un petit peu partout pour rénover l'État, rénover le gouvernement, rénover la politique. Ce sont des gens qui se posent en... alors, c'est Olivier Dard qui utilise cette expression, ils se posent en relève politique. C'est-à-dire en prétend être ni à droite ni à gauche, mais ailleurs, et proposer quelque chose de nouveau, en s'inspirant d'un petit peu tout ce qui se passe.
D'où le mythe de l'homme nouveau aussi, qui traverse pas mal de cultures à cette époque-là.
Oui. Ouais. Y compris le mouvement breton.
Oui. Oui, mais alors, il y avait quand même, à la base, un sentiment d'identité régionale, enfin locale, nationale, parce qu'ils parlent carrément d'identité nationale, ils se considèrent comme une nation.
Oui.
Ça, c'est pas toutes les régions qui ont eu ce sentiment-là, quand même.
Non. Non, c'est vrai, c'est pas toutes les régions. Mais là parce qu'il y a un activisme qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Et puis, il y a un sentiment, quand même... d'être de pas être français quoi.
Enfin,
de...
Oui oui, mais ça alors ça ça c'est alors là il faudrait remonter au 19e siècle parce que évidemment les gens sur lesquels j'ai travaillé ne sont pas des précurseurs. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils héritent aussi de toute une tendance, toute une réflexion de courants intellectuels et de courants culturels aussi qui ont traversé le 19e siècle. Alors, on parle de bretonnistes, on parle de La Ville Marquée, le Barzaz-Braise, il existe comme une union régionaliste bretonne dès la fin du 18e, du 19e, pardon. Donc,
il y a déjà
un discours qui a, qui a été forgé et qui est repris.
Et qui rencontre ce besoin d'héroïsme. Et,
voilà, après-guerre.
D'accord. Ok. Mais alors, pourquoi ça a été instrumentalisé, du coup, cette histoire-là ? Pourquoi ils ont eu besoin de l'instrumentaliser ?
Ah, parce que c'est comme ça qu'on crée des nations.
D'accord, c'était pour créer leur propre mythe, enfin leur propre terreau,
ouais.
Quoi.
Oui, oui.
Pour se nourrir,
oui,
finalement.
Oui. C'est-à-dire que une nation, c'est une communauté imaginée.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pas dit imaginaire, hein, j'ai dit imaginé. Donc, pour l'imaginer, il faut l'alimenter. Donc, ça, c'est ce qui s'est fait au 19e, où des intellectuels, des folkloristes vont chercher de la matière, l'étudient, la diffuse, et il y a un moment où on espère que cette matière-là, qui crée, la Bretagne, c'est les menhirs, la Bretagne, c'est la langue bretonne, la Bretagne, c'est telle ou telle histoire. Bon, une fois qu'on a fixé ça, on veut essayer de la diffuser le plus possible et de façon à en faire une culture de masse. Et ce que les personnes sur lesquelles j'ai travaillé ont essayé de faire, c'est ça. C'est-à-dire essayer de faire comprendre aux Bretons qu'ils étaient des Bretons. Parce qu'ils sont partis du principe que, à la faveur de la Grande Guerre, les Bretons avaient dégénéré puisqu'ils s'étaient battus aux côtés de la France.
Il y a quand même une histoire. Enfin, c'est des mots importants. Le sentiment de dégénérescence. Mmh. Donc, il y a l'idée de race quand
bien
même
sûr.
Aussi derrière.
Ouais.
Et puis, il y a le panceltisme aussi
oui.
que vous abordez. Alors, qu'est-ce que c'est le panceltisme ?
Là encore, héritage du 19e, c'est cette croyance en une race celte finalement qui serait distincte des autres et puis qui recèlerait des caractéristiques propres, c'est-à-dire qui se résume très très simplement, hein, pour les Bretons en tout cas, dans la figure du guerrier. Mmh. Voilà, le guerrier viril, celte, voilà, c'est ça. C'est, le celte, c'est ça. Et l'idée qui prévaut dans le Parti National Breton, c'est que les Bretons ont dégénéré. La preuve, ils se sont battus en masse pendant la Grande Guerre pour la France. C'est bien le signe qu'une fois francisés, ils ont dégénéré. Donc il faut les régénérer. Et la solution que l'on trouve, que l'on imagine à ce moment-là, c'est de favoriser les contacts avec les frères celtes, ou les cousins, ça dépend comment on les appelle, qui, eux, auraient conservé les caractères purs de la race. Il y a toujours ce fantasme du Nord. Mm-hmm. Plus on va vers le Nord, plus on a gardé les caractéristiques.
Ils n'ont pas été jusqu'à la Norvège ou
Non, parce que là, c'est...
là, c'est les Normands.
non, mais alors, oui, mais là,
c'est une autre histoire.
C'est là où... c'est pas... Si, c'est là où la culture celtique rencontrerait la culture germanique, dans une espèce de grand tout nordique.
Mm-hmm.
Autrement dit, arien. Dans les années 40, c'est comme ça que ça s'appelle.
Mm-hmm.
Mais il y a cette croyance-là, donc, qu'au contact des Celtes, enfin, des Irlandais, des Écossais, des Gallois, on va raffermir les caractères endormis chez les Bretons. Et qu'ils vont enfin devenir conscients de ce qu'ils sont.
Oui, il y a une expression que j'ai retenue, c'est le celte intégral, qui m'a un peu fait sourire. Devenir le celte intégral.
Oui.
Alors, ça, bon.
Ce qui n'a pas de sens, moi. Enfin,
ils l'ont utilisé.
Oui.
Bon, okay. D'accord. Et comment on est... Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on est passé d'une revendication raciale et d'un discours de régénérescence ou dégénérescence, je ne sais pas comment il faut le... qui est un peu marqué quand même à l'extrême droite, à une extrême gauche indépendantiste à la fin des années 90, ou alors de l'union de la jeunesse de Bretagne au Parti National Breton, puis ensuite au socialisme de l'Union démocratique bretonne, si j'ai bien compris. Mmh. C'est l'articulation. Alors, je sais que vous étudiez plus particulièrement
la première moitié
du XXe siècle, on va dire. Mais c'est quand même assez surprenant quand on voit l'évolution.
Oui et non. C'est-à-dire que... alors là, c'est un autre contexte qu'il faut prendre en compte. Les années 60-70 sont marquées, et surtout en Bretagne, par un changement social-économique radicale. C'est-à-dire qu'on assiste à la modernisation de l'agriculture et donc à des bouleversements sociaux très profonds. C'est-à-dire que la mécanisation, la disparition de certains métiers font que pas mal de gens se retrouvent à devoir quitter la Bretagne pour aller travailler en ville, souvent en région parisienne. Il y a un exode rural massif. Mmh. Et cet exode rural se double du coup d'une rupture intergénérationnelle, puisque les gens qui vivaient assez souvent à plusieurs générations sous le même toit sont désormais séparés. Rupture professionnelle, puisqu'on change de métier. Il y a aussi rupture avec l'idée avec l'environnement, l'idée que l'on perd ses racines. Et on se retrouve avec une génération d'exilés, déracinés, transclasses aussi, qui a énormément de problèmes à gérer, du coup, et qui, finalement, quasi immédiatement, se réfugie dans une forme de nostalgie. Nostalgie du temps passé, du passé familial, mais un passé fantasmé. Mmh. Vous voyez ? Et donc, c'est une génération qui est du coup très sensible au passé rural, mais aussi à tout ce qui est identitaire. Et donc, c'est une raison parmi d'autres, sûrement, mais c'est aussi à ce moment-là que la gauche s'empare des questions identitaires. Et ce qui se manifeste par les mouvements hippies, par la généalogie, par le revival en Bretagne, par des partis politiques, par l'écologie, par tout un tas de choses.
En fait, quelque part, c'est la société qui a changé. Oui. Et du coup, il y a toujours ce qui est constant, c'est le besoin identitaire, quoi, oui, finalement, quelle que soit la mouvance politique qu'il y a autour.
Le besoin ou la réflexion autour de...
Autour de ton identité. Oui. Et par contre, l'époque a changé, les préoccupations ont changé, oui, donc les discours n'est plus le même, quoi. Enfin, la sensibilité n'est plus la même. Ouais. Parce que même si on en revient à la période de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, que vous avez plus particulièrement étudié, il y a quand même plusieurs courants aussi. Il y a des courants plus liés au conservatisme catholique, on va dire, et d'autres, je ne sais pas, le fédéralisme, c'est encore autre chose. Quelles sont les nuances?
Tout dépend de quelle période on parle, mais si on parle de la Seconde Guerre mondiale, mettons, on a le noyau central qui est le Parti national breton, qui lui-même a connu une petite évolution pendant la guerre, mais se double d'une tendance catholique autour du Bloenbruck, se double aussi d'une tendance, alors qu'il se prétend régionaliste, mais qui est finalement une espèce de concurrence, bien entendu, avec les nationalistes. Donc, en fait, on se partage un gâteau pour réussir finalement pour réussir à se placer partout. Finalement, tous ces gens-là se connaissent, tous ces gens-là sont plus ou moins concurrents, mais amis aussi. Tout le monde veut être chef à la place du chef. C'est une espèce de partage des tâches, quoi, si vous voulez. Il y a différentes tendances qu'il peut y avoir.
Ça n'a toujours pas changé en politique.
Non.
C'est toujours pareil. Enfin, c'est une histoire de pouvoir, quoi, d'exister sur l'échiquier politique.
Donc il y a ça, et après il y a l'évolution dans le temps, où par exemple à partir de 1943, certains comprennent très bien que le vent a tourné et qu'il va falloir, envisager les choses autrement. Donc certains se détachent petit à petit des Allemands, tandis que d'autres vont s'en rapprocher de plus en plus. Donc on voit aussi des trajectoires différentes se faire.
Il y a eu des résistants aussi dans ce mouvement-là ou pas ?
Ils sont une poignée.
C'est une poignée. Oui. Mais d'ailleurs, au bout du compte, ça concerne combien de personnes cette histoire ? J'ai l'impression que c'est pas énorme, quoi. C'était vraiment l'unité Perrault, par exemple, qui est vraiment on va dire une des expressions les plus extrêmes de la période pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ça représentait quoi ? Une poignée de personnes, non ?
Oui, là-dedans, on trouve entre 60 et 70.
Ah, quand même.
À y être passé. Mais alors là, évidemment, c'est toujours un peu la référence que l'on utilise. Assez souvent, d'ailleurs, pour minimiser l'action des nationalistes bretons. Mais on estime aujourd'hui, alors sans aucune certitude, mais c'est les chiffres qui sont proposés, qu'il y aurait entre 2 à 3 000, militants autour du Parti national breton.
D'accord. Sur toute la période ou un moment...
Pendant la guerre, mettons.
Pendant la guerre.
Au plus gros des effectifs, on va dire en 42. Voilà,
donc c'est loin de représenter quand même le peuple breton, quoi.
Ah, pas du tout.
C'est vraiment une minorité active, quoi.
Une minorité active qui n'est pas du tout représentative de la population bretonne et qui d'ailleurs est détestée de la population bretonne.
mais très qui se montre beaucoup, qui
se montre et puis qui a réussi à quand même à s'ancrer dans le paysage et à agir.
Mmh. D'accord. Et donc, si on en vient à la, parce qu'il y a un point sur lequel vous avez particulièrement travaillé, c'est la culture bretonne, mmh. l'instrumentalisation oui. par la politique de la culture bretonne, et notamment le rôle de la musique. Vous êtes vous intéressez manifestement à la musique.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment ça a été pourquoi déjà? Pourquoi la musique? Pourquoi est devenu un instrument pour marquer l'identité bretonne? Oui. Quelle a été son évolution?
Là aussi, alors c'est une longue histoire, mais c'est assez fascinant. Je ne sais plus exactement comment je suis venu à m'intéresser à l'histoire de la cornemuse, mais...
C'est la cornemuse au départ.
Ouais.
D'accord.
En fait, j'ai remarqué que dans Breizh Atao, dans l'entre-deux-guerres, il y avait régulièrement des articles sur la musique. Comme moi, je fais de la musique, ça m'intéresse. Donc, je regardais ça avec attention. Et je m'étais rendu compte que, là encore, on retrouvait le langage de la dégénérescence, c'est-à-dire cette croyance que la musique bretonne avait dégénéré. Et ce qui était grave, puisque on est dans une période où on croit que la musique, c'est le reflet de l'âme des peuples. Donc, si la musique a dégénéré, c'est bien qu'il y a un problème derrière. Donc, il faut remédier à ça. Et le symbole de cette dégénérescence, c'était le couple de Biniou Bombard. Mm-hmm. Mais le Biniou cause, le vieux Biniou, quoi. Et donc, pour retrouver les caractères encore de la race celtique, il fallait changer l'instrument et le remplacer par la cornemuse, qui est plus imposant, qui est plus viril.
Martial.
Et plus martial. Bah, ouais. D'ailleurs, c'est les paillebandes militaires qui défilent avec ça. Donc, le modèle, c'était ça.
Modèle écossais. Hein.
Le modèle écossais. Mais le modèle du paillebande, pas...
Donc là, on rejoint le panceltisme aussi.
Voilà. Ouais. Donc, c'était ça. Et ça conduit progressivement à la création, alors on appelait ça à l'époque des cliques bretonnes, mais qui étaient calquées sur le modèle écossais et qui aboutira dans les années 50 au bagadou, ce qu'on appelle aujourd'hui sous le terme de bagadou.
D'accord. Donc, ça a une origine aussi politique et liée à la guerre, enfin, à la représentation qu'on se fait de la virilité guerrière.
Voilà.
Mmh. Ouais. Et quelles sont les autres caractéristiques? Parce qu'après, vous avez étudié aussi la période des années 60-70.
Oui, alors ça, c'est encore autre chose.
Avec cette idée de revival, alors c'est quoi le revival?
Là aussi, alors c'est intéressant parce que j'imagine que pour la plupart des gens, le revival, c'est le revival celtique. C'est-à-dire, c'est Alan Stivell avec son gros triskel, c'est le groupe Trian, c'est ici, il y avait un groupe à Brest qui était très célèbre, qui s'appelait Triskel aussi. Et donc, c'est cette croyance en le fait que ces gens s'inspirent de la matière celtique pour faire une musique celtique. Or, si on regarde de près ce qui s'est passé, c'est une musique américanisée profondément.
Oui, mais l'importance, on le verra aussi avec le drapeau tout à l'heure, l'importance de la culture américaine.
Ouais. Pour
la culture bretonne.
Oui, alors qui est assez inattendue.
Ça m'a surprise, mais effectivement, quand on y pense,
c'est bien. Oui, qui est assez importante,
D'accord. Et donc, du coup, c'est le folk qui s'est mêlé au folklore breton, on peut dire ça, ou
alors,
la musique traditionnelle bretonne.
Je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que finalement, on fait un folk qui se prétend breton, mais qui n'a rien à voir avec la musique traditionnelle au départ. C'est de la chanson Glenmore, par exemple, fait de la chanson Rive Gauche, quoi, mais il se présente au départ comme un guitariste un peu folk breton. Et Gilles Servat, c'est pareil, c'est-à-dire c'est pas de la musique bretonne, il parle de la Bretagne, mais c'était plutôt du folk à l'époque, ou de la musique de cabaret.
Mm-hmm.
Et, donc le modèle, il est ou parisien ou américain.
Mais quand même, il y a des instruments qui sont spécifiques à la musique traditionnelle bretonne.
Par la suite, oui. C'est-à-dire, par exemple, le talent de Stivell, c'est d'avoir réussi à mélanger la guitare électrique et la harpe et la cornemuse, et ce genre de choses, de faire une espèce de fusion, finalement, d'instruments qui passent pour des instruments traditionnels et d'instruments modernes.
D'accord. Okay. Et vous parlez dans un de vos articles, ça m'a intéressé, de la coopérative Nevenoé.
Ouais.
C'est quoi cette coopérative? Ça avait l'air... c'est un label de musique, mais plus que ça?
Ouais, alors c'est pas, alors ça je connais.
Vous n'avez pas creusé plus que
non,
ça.
Non, non. Alors là, il faudrait poser des questions à Olivier Pollard qui a bien travaillé sur ces questions-là. Mais effectivement, dans les années 70, c'est une espèce de coopérative de musiciens qui s'inscrit clairement dans les contre-cultures américaines pour le coup, qui vivent un peu en autarcie dans les monts d'Arrée. Le but, c'était de vivre comme vivaient les Américains dans les années 30. C'était un peu le rêve de certains d'entre eux. Et c'est des gens qui s'inscrivent aussi en rupture avec la dimension commerciale de la musique et qui proposent un circuit alternatif pour produire de la musique et la vendre.
Mmh. Oui, ça avait l'air. Puis vivait. Enfin bon, et après, c'est aussi les années 70, donc c'est une vie communautaire aussi.
Communautaire, c'est très do it yourself. S'il y a besoin d'un violon sur un disque, on apprend le violon et puis 15 jours après, on le joue.
C'est, voilà. Oui, très expérimental et en même temps une expérience assez courte, finalement.
Oui.
Trop intense pour durer. Ok. Et alors, est-ce que vous. Alors, ça, c'est une question que moi je me pose parce qu'il y a eu une vente aux enchères là, la semaine dernière de la collection familiale de Jeanne Malivelle. Mmh. Puisqu'on parle de culture, est-ce qu'il y a une connexion entre le mouvement Arsès-Breur qu'elle a initié et le mouvement nationaliste breton?
Oui, alors il y a des gens qui sont passerelles entre les deux. Je pense à René-Yves Creston, par exemple, qui a fait de la gravure, qui a produit des œuvres dans le milieu des Arsès-Breur, qui a fait de l'ethnologie ensuite. En s'intéressant aux costumes, en s'intéressant au milieu de la voile. Et en même temps, il était aussi très, très lié aux militants du Parti National Breton. Il a pu écrire aussi dans diverses revues.
Oui, parce que ce mouvement-là, oui, on ne l'a pas précisé, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de revivifier en fait, la tradition artistique et artisanale bretonne en la modernisant.
Oui, c'est la prétention de créer un art moderne breton.
Oui, d'accord. Donc, il y a bien une connexion.
Oui.
Je me suis posé la question parce que c'est rarement. Enfin, je ne l'ai pas. C'est pas évoqué, quoi.
Oui.
Mais il y en a une. Oui, parce que forcément, finalement, l'objectif était un peu le même, quoi. De revivifier la culture bretonne.
Oui, c'est ça, créer quelque chose de nouveau.
OK. Et alors, maintenant, si on approche la question du drapeau breton, parce que vous m'avez fait lire un article à ce propos, j'ai complètement découvert. Parce que cet objet qui est. Banalisé et qui partout maintenant, et voire même commercialisé, qui est complètement partout. Il a une histoire qu'on ignore pour la plupart d'entre nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce drapeau?
Oui, alors rapidement, c'est un drapeau qui a été créé en 1925, qui a été dessiné par un militant tout à fait singulier qui s'appelle Morvan Marchal et qui cherchait à faire à donner un emblème au groupe qui s'appelait à l'époque l'Union de la Jeunesse de Bretagne, qui n'avait pas d'emblème pour se singulariser, contrairement aux régionalistes, par exemple. Donc là, l'idée, c'était de se montrer dans le paysage avec un drapeau propre au mouvement. Un mouvement qui est tout petit, ils ne sont vraiment pas nombreux là-dedans. Et donc, ils décident de s'inspirer à la fois du blason de la ville de Rennes, qui est noir et blanc, et du drapeau américain.
Donc
parce que l'Amérique est un modèle à l'époque
de fédéralisme,
et puis aussi de d'expérience économique, politique. Enfin, c'est la modernité des années 20. Et on lorgne aussi de ce côté-là. Donc voilà, ce drapeau est créé. Il est brandi dans diverses manifestations bretonnes. On raconte qu'il a été sorti en 1925. À l'expo universelle des arts ménagers, je crois, quelque chose comme ça, mais je n'en ai jamais vu aucune image nulle part et aucune preuve de ça. Ça se raconte, mais.
Oui, c'était très discret.
C'est même pas vrai, si ça se trouve. Et donc, voilà, lorsque les militants font des pèlerinages sur des lieux de mémoire, on défile avec les drapeaux, mais c'est un drapeau de parti. C'est-à-dire, c'est vraiment leur drapeau à eux.
Oui, apparemment, il est en concurrence en plus avec. D'autres drapeaux, celui avec la croix noire, c'est ça?
Oui, qui viendra après.
Ça vient après.
Mais le drapeau qui est le plus souvent utilisé dans les milieux régionalistes, c'est le drapeau à Hermine, qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs sur le château de Brest. Je ne sais pas si vous avez fait attention.
Non.
C'était le drapeau breton qu'on connaît, qui flottait sur le château jusqu'à présent. Et depuis quelques semaines, c'est le drapeau à Hermine qui a été remis à la place. Ouais.
Parce que j'avais cru comprendre qu'en fait, il avait été délaissé pour l'autre drapeau, parce qu'il était un peu trop associé à l'aristocratie.
C'est ça. Donc il y a une concurrence dans la fin des années 30 entre plusieurs drapeaux. Les vieux ne veulent pas du drapeau moderne, les modernes ne veulent plus du drapeau des vieux. Finalement, il est capté par. Enfin, il est capté. Ça reste le drapeau emblème
d'un mouvement politique.
Donc l'Union de la Jeunesse de Bretagne, le Parti Autonomiste Breton, le Parti National Breton.
Mais ça se transmet de mouvement en mouvement dans le temps, quoi.
Voilà. Et à la fin de la guerre, il est associé évidemment à la collaboration, donc on le voit un peu moins, quoi.
Vous aviez une expression, le drapeau malfamé.
Oui, oui.
Le drapeau malfamé, donc il était complètement au nid. Oui. On ne le voyait plus nulle part, j'imagine.
Dans certains milieux, mais on ne le sort plus parce que c'est mal vu. Ça revient, on va dire, au début des années 50, justement par les Bagadous et les Serbes Celtiques, voilà, qui le sortent à l'occasion du festival de Cordouailles ou des fêtes comme ça.
Mmh.
Et là, du coup, il défile et il redevient populaire au fur et à mesure.
Visible, enfin acceptable.
Voilà.
Et alors après, comment il devient carrément un objet aussi banalisé qu'il l'est aujourd'hui ? Comment vous expliquez ? Parce que son succès, finalement,
ouais.
En tant que symbole. Je ne sais même pas si c'est un symbole, parce que oui, si on peut...
Alors dans les années 70, il ressort à la faveur de diverses manifestations. Le Goff, le Juin français, des manifs comme ça. Mais il n'est jamais seul. Il est toujours accompagné ou du drapeau rouge ou de l'écharpe tricolore des élus. Enfin, il y a toujours quelque chose avec. Mais c'est peu à peu que le drapeau va être brandi seul. Et dans les années 90, à la faveur d'un second revival musical, d'Anne Arbraz, l'héritage des Celtes et tout ça, là, on va brandir du drapeau dans des stades.
Oui, il y a aussi au foot.
Ouais. Ouais. Et là, pour le coup, il gagne vraiment en visibilité. Et à tel point que, vous savez, maintenant il est sur les plaques d'immatriculation des voitures, au lieu du logo de la région Bretagne.
Oui, puis d'après ce que j'ai compris, il a été aussi récupéré par l'économie pour en faire un produit.
Ça se vend, oui.
Ouais, ça se vend bien.
Ouais.
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 Ça accompagne aussi le nouveau discours identitaire breton qui est lié.
Bien sûr, qui passe par.
Au business, quoi.
Oui, qui passe par ce qu'on peut appeler l'ethno-libéralisme, où l'identité, ça se vend, c'est un marché.
Mmh. Ouais. Fructueux.
Oui. Ah oui, ça marche bien. Oui.
Comme quoi, le destin d'un petit bout de tissu est assez. C'est bien parce qu'en fait, il incarne bien toute l'évolution du siècle.
Oui, oui.
C'est une bonne incarnation historique, finalement, pour la région. Je vous remercie. Et alors maintenant.
C'est moi.
Quels sont vos projets de recherche ?
Alors là, je m'intéresse justement à la sortie de guerre du mouvement breton, c'est-à-dire comment après l'épuration 44-45, comment on se reconstruit ? Comment tout ça, ça repart ? Par où ça passe ?
Ce qui m'interrogeait aussi, quoi, quand, la bascule quand même, voilà. Il y en a une là.
Ouais.
Comment on se reconstruit dans l'après-guerre, quoi.
Ouais.
C'est ça ?
Donc là, il y a beaucoup de choses à voir.
Ok. Ouais. Et maintenant, l'instant lecture. Pour terminer cette émission, traditionnellement, on demande un coup de cœur. Donc, quel serait le vôtre ?
C'est une chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle Born to Run.
Et pourquoi ce choix ?
Parce que je suis fan du boss, déjà, pour commencer.
La culture américaine.
Voilà, c'est ça.
C'est cohérent.
Parce que c'est une voix américaine qui mérite d'être entendue en ce moment. Et puis, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que tout se termine mieux avec Born to Run. Simplement.
D'accord, il y a une crise, on met la chanson.
On met Born to Run, c'est bien. Regardez n'importe quel film, vous enlevez le générique final, vous mettez Born to Run, c'est vraiment mieux.
Vous voyez en rose. merci beaucoup.
Merci beaucoup.
D'avoir passé ce moment avec nous. Au revoir.
Au revoir.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.